Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans l'émission de La Forêt des Possibles sur le 88.4 du mercredi 29 octobre 2025 pour votre rendez-vous hebdomadaire qui met en valeur les actrices et acteurs de transition écologique et sociale de Marseille et de ses alentours. Installez-vous confortablement pour ce moment de respiration et de réflexion. Un moment pour vous inviter à trouver votre juste place dans une société en pleine transition, du moi au nous et du nous au tout. Du moi au nous, nos invités nous présentent leur parcours, leurs questions, les engagements, les éléments qui leur ont donné envie de pouvoir se mettre dans l'action et de s'engager dans leurs projets. Du nous au tout, ils et elles présentent la manière dont ces projets transforment le monde à leur échelle. Oui, à plusieurs, c'est possible de changer le monde. Et vous, auditrices et auditeurs, êtes d'ailleurs invités à vous engager à votre tour dans cette grande forêt de personnes et de projets inspirants. Inspirant et inspiré, Clément Perrault, notre invité du jour, l'est assurément. Multicasquette, on aurait du mal à le présenter. C'est d'ailleurs la magie d'un arbre aux multiples ramifications. À la fois engagé à la primaire populaire après avoir suivi les méthodes d'implication des citoyennes et citoyens dans la campagne présidentielle américaine de Bernie Sanders, dont il a écrit des livres, il est aussi animateur et formateur à la fresque du climat, ou encore chargé de levée de fonds pour la coopérative WinCop, qui construit actuellement le premier porte-container à voile qui reliera Marseille à Madagascar en juin 2027, grâce à 1800 sociétaires et déjà 7 millions d'euros levés. Mais ne nous égarons pas. Après avoir présenté une petite partie de l'impressionnante arborescence des projets de Clément, revenons à notre forêt. Comme nous venons de le dire, la forêt des possibles vous invite à trouver votre juste place. Tout un programme, tant cette question est multiple. Elle brasse des enjeux innombrables, qu'ils soient matériels, relationnels, géographiques, sociaux, psychologiques ou philosophiques. C'est d'ailleurs une problématique à laquelle Claire Marin a tenté d'apporter un éclairage dans un livre qui s'appelle « Être à sa place ». Trouver sa place, c'est tout l'objet d'études sur lequel porte Trajectoire écologique, dont Clément Perrault est un des cofondateurs. Cette étude, à laquelle je me suis prêté à l'exercice tant par intérêt personnel que pour avoir des billes pour préparer cette émission, nous pose de nombreuses questions sur l'évolution de notre mode de vie depuis 2015. Vous serez passé au grill sur des questions qui peuvent être liées à l'engagement associatif, le parcours professionnel, les choix de vie, les habitudes, avec des questions qui ne sont pas ici ce soir mentionnés très spécifiquement, mais qui permettent d'évoluer, d'identifier l'évolution de nos relations. Le nombre de fois où on a pu prendre l'avion, par exemple. Enfin bon, j'ai relevé une question, mais je n'irai pas plus loin parce que l'essentiel est de pouvoir laisser à Clément le soin de présenter cette étude.
Il faudra mettre un bip.
Une étude au peigne fin sur lequel on ressort avec une grande frise, est-ce que j'ai le droit de le dire, de nos moments de bascule écologique. De bascule, il s'agira aussi des vôtres aussi demain, à n'en pas douter, vous qui nous écoutez, en vous souhaitant qu'elles soient choisies avant que la folie du monde et la raréfaction des ressources nous poussent à ce qu'elles soient subies, ce qui serait une toute autre paire de manches. Choisir son chemin et poser chaque jour des petits pas incertains de trajectoire écologique, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec une question. Qu'est-ce qui nous fait basculer? Je suis Marin Moffret et je remercie Sidi Diallo en régie pour l'enregistrement de cette émission qui aujourd'hui n'est pas en direct. Et pour commencer, notre première question à nos fidèles auditeurs qui ont l'habitude d'entendre cette musique du mois au nous. La première question est toute évidente pour toi, Clément. Qu'est-ce qui t'a fait basculer?
Merci pour l'invitation. C'est très biaisé comme réponse parce que ça fait du coup 2 ans que je travaille avec une équipe de bénévoles et de chercheuses sur cette question et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait il n'y a pas de point de bascule et c'est ce dont témoignent plein de gens. Pablo Servigne notamment dans ses interviews témoigne que lui il a eu, je crois qu'il estime une cinquantaine de ce qu'il appelle les aha moments et personnellement, je peux dire des moments qui ont fait rupture, mais est-ce que la bascule, elle est avant, est-ce qu'elle est après, voire même est-ce qu'elle existe tout court, est-ce que tout ça, c'est pas juste un mouvement général? Je préfère ne pas aujourd'hui simplifier les choses par la question de quand est-ce que j'ai basculé. En revanche, effectivement, à l'origine, j'ai un parcours classique élitiste d'école de commerce et j'aurais pu prendre une autre voie que celle que j'ai prise. Et cette voie-là n'est pas dans la norme sociale à certains égards, parce qu'il y a plein d'autres égards sur lesquels je suis encore évidemment dans cette norme sociale. Mais pour faire simple, je rentre en école en 2009, c'est l'année des subprimes. Je me rappelle passer le porche de l'école sans savoir les cours que j'allais avoir parce que j'étais en école surtout parce que j'avais aimé les cours que j'avais en prépa. Ne faites pas ça à la maison. Et je me rappelle me dire ça va être chouette parce que on est dans un moment qui chahute l'économie mondiale et du coup on va réinterroger les enseignements. On peut dire que dalle. Mais ça a été quand même des années intéressantes où je me suis documenté sur Reporter, sur le blog à l'époque Planète du Monde, qui était tenu, je l'ai appris a posteriori, bénévolement par Audrey Garrick, qui aujourd'hui gère la rubrique Planète du Monde, mais qui à l'époque le faisait en side project sur certains articles. Et peut-être même avant ça, dans les termes de prise de conscience, il y a le rapport Meadows, qui est dans le cours de prépa d'histoire géo et où ben il arrive comme ça hein, en un quart d'heure au sein d'un cours d'histoire géo où en fin de prépa tu sais réciter les productions de charbon de la Grande-Bretagne de la France et des États-Unis décennie après décennie de 1850 à 2000 mais bam à un moment on te rappelle il y a des limites finies et il y a des gens qui l'ont dit depuis 1972 et je me rappelle vraiment où est-ce que j'étais assis dans la pièce au moment où on a eu ce cours donc Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui le réinvente, mais je pense que c'est un moment fondateur. Donc, il y a ce moment fondateur sur les ressources, il y a le moment de divergence idéologique par rapport à ce que m'enseigne en école de commerce, et puis, du coup, il y a cette envie de, après l'école, s'interroger sur les limites de ressources. Et j'ai commencé en liant l'utile à l'agréable et en voyageant de manière itinérante en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est, principalement par le stop, et en m'arrêtant dans des villes pour comprendre quels étaient les modes de ville qui pouvaient être économes en ressources et épanouissants. Donc, ligne de crête de non-apologie de la pauvreté subie et en même temps de l'intelligence d'usage qui vient souvent de la contrainte économique. Et après... C'est une succession de hasards de rencontres, comme dirait Otis dans Asterix Obélix, puisque je rentre en France en 2015, je milite côté ONG pour la COP21, là je rencontre un ancien de la campagne d'Obama qui m'envoie en bénévole dans la campagne de Sanders en 2016, Bernie Sanders du coup opposant de gauche radicale à Hillary Clinton durant la primaire démocrate de 2016, qui du coup aurait pu faire face à Donald Trump s'il avait gagné. Et ça a été un moment de prise de conscience sur les limites, voire même les gros dysfonctionnements de la démocratie américaine et des démocraties occidentales, puisque s'est enchaînée ensuite la présidentielle de 2017, qui, rappelons-nous, est celle de la complaisance médiatique à l'égard de certains candidats. Et aujourd'hui, c'est une période charnière. Cette partie 2016, puisque c'est là où j'arrête l'avion, j'arrête la viande. Et du coup, je passe d'une écologie de l'incantation, une écologie de l'incantation et de la pratique, et je m'interroge aussi sur les leviers de pouvoir, puisque je les expérimente du côté ONG, du côté électoral. Et puis, globalement, après, je remets une veste et un costume après 2020, puisque je me retrouve à animer des fresques du climat en entreprise, après avoir eu un passage plutôt en ONG et en parapublic. Et durant 3 ans, j'ai du coup bossé avec Cédric Ringenbach pour déployer la fresque du climat dans les entreprises. Pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, la fresque du climat, c'est un jeu pédagogique qui résume le rapport du GIEC, qui explique en gros que les activités humaines, parce que dépendantes des énergies fossiles, surémettent du dioxyde de carbone et autres joyeuseries, ce qui nous mène à notre perte à moyen terme si on ne change pas radicalement.
Merci Clément, on a entendu beaucoup d'éléments. Si je les restitue quand tu parles de tes 1-1 moments, c'est le fait que c'est pas une grande bascule à un moment, mais plusieurs éléments qui viennent se mettre comme plein de petits grammes qu'on met sur une balance jusqu'à ce qu'elle finisse par basculer avec des questions liées à l'école de commerce, le rapport Meadows, un voyage en Inde, une campagne électorale aux États-Unis, en 2016 avec les élections présidentielles françaises, le rapport à l'avion, l'ONG, la fraise du climat. Tu as parlé du rapport Meadows. Moi, je sais ce que c'est que le rapport Meadows. C'est quand même un rapport assez fondamental. Je pense que c'est d'intérêt public que de présenter peut-être très rapidement ce que c'est que ce rapport, parce que c'est vraiment celui qui nous met les yeux dans les orbites, quoi. De voir un peu quels sont les grands ordres de grandeur sur ces questions.
C'est intéressant parce que le rapport Meadows, donc, qui est un modèle mathématique à la base, qui regarde les ressources planétaires, leur quantité qui est finie puisqu'on est dans un monde fini. Regarde l'évolution des consommations humaines et des pollutions humaines et en conclut à quel moment il y a des effets de bascule parce que on fait des tipping points, donc on dépasse le moment où on peut continuer à croître dans nos consommations. Et un système qui a besoin d'accélération, en fait, il n'est pas du tout apte à absorber le choc du ralentissement et du coup, il s'effondre, ou en tout cas, il a des grosses ruptures. Et c'est ce que, de manière assez simpliste, on pourrait utiliser comme résumé du rapport Meadows. Les Meadows, du coup, dont c'était la femme, Donella Meadows, qui était en tête du rapport, et c'est son mari aujourd'hui qui en fait le service après-vente, puisqu'il est encore en vie et elle non. Denise Meadows, du coup, Denise et Donella Meadows étaient entourés d'une équipe du MIT, qui est une grande université américaine au Massachusetts. Il y a un autre peut-être point sur lequel je voudrais revenir, sur les prises de conscience. En fait, il y a la prise de conscience écologique qui passe, comme pour beaucoup de personnes, d'abord par la prise de conscience climatique, après la prise de conscience de la biodiversité, et en fait les intrications aussi sociales et d'oppression internationale. Et notamment, j'observe ça autour de moi et je l'observe un peu chez moi. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce cheminement, c'est qu'on passe d'une déconstruction subie et souffrante à une espèce d'excitation intellectuelle de la déconstruction. Et typiquement, sur les questions décoloniales qui structurent en fait l'économie encore aujourd'hui, la question coloniale et le rapport colonial aux ressources, on peut le vivre comme une mise en danger de notre identité personnelle en tant que privilégié blanc, ou bien se dire en fait ça me permet d'accéder à un autre niveau de compréhension du problème du monde et du coup un autre niveau de levier d'action. C'est peut-être aussi ça que je voulais un peu illustrer dans la manière de témoigner de mon cheminement. C'est un peu fatigant à la longue, mais je réinterroge assez régulièrement est-ce que j'utilise le bon levier d'action pour atteindre l'objectif que je cherche.
Tu parles de la question décoloniale, est-ce que c'est celle sur laquelle tu travailles en ce moment? Tu parlais de différents moments avec des choses qui un peu nous éveillent. Est-ce que c'est le sujet du moment qui te travaille le plus?
C'est forcément inconfortable de répondre à cette question, de la même manière que si tu me disais est-ce que tu travailles à ton féminisme en ce moment, je te dirais oui, j'essaye, et mes potes féministes et mes potes femmes diraient il est encore loin du compte. Juste avant ce podcast, j'étais en discussion avec une amie qui est d'origine arabe et musulmane et qui relevait quelque chose que j'ai fait hier qui l'a blessé, et qui l'a blessé parce que en fait il y avait un substrat raciste. Et donc je peux pas te dire que je sais où j'en suis de ce cheminement-là, mais je pense que j'en suis au stade où j'accepte la critique le plus souvent. Il y a plein de fois où elle est encore douloureuse à recevoir, et j'apprécie aussi de me nourrir sur ces sujets. Mais le truc sur lequel je chemine le plus en ce moment, c'est réussir à lâcher mon portable, parce que je suis horrifié des statistiques moyennes qu'on a en tant que société sur le temps qu'on y passe et des statistiques que me renvoie mon propre portable sur le temps que j'y passe.
C'est quelque chose qui résonne en moi pour avoir cassé mon téléphone il y a un mois et demi et d'avoir décidé de ne réinstaller que le strict nécessaire en matière d'application dessus. Effectivement, c'est hyper chronophage et surtout, ça prend pas que du temps, ça prend une partie de notre énergie vitale, même de notre âme, je pense qu'on peut le dire, derrière d'avoir l'impression d'être davantage comme un zombie. J'aimerais te demander ce que la manière dont tu le vis, tu disais qu'il y avait une sorte d'excitation intellectuelle, tout en employant aussi la question de la douleur. Est-ce que tu trouves que c'est un chemin qui t'amène vers plus d'épanouissement, de joie, de conscience du monde, ou est-ce que aussi c'est une sorte de deuil de toute la construction dans laquelle on s'inscrit avec tout ce qu'elle porte de plus injuste, ou un peu des deux?
C'est pas évident. Je dirais, une fois que tu sais, pour reprendre le nom du film d'Emmanuel Caplain, tu peux pas revenir en arrière. Donc, que ce soit pour la prise de conscience écologique, pour la prise de conscience féministe, antiraciste, décoloniale, et même antispéciste ou autre, et si ça se trouve j'en oublie, ce qui est fascinant sur les oppressions, c'est que il faut se prendre des claques pour en prendre conscience. Et notamment, par exemple, sur la prise de conscience validiste, il y a un problème d'invisibilisation des personnes handicapées dans, en situation de handicap dans notre société. Bref, tout ça pour dire que, comme de toute façon, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, c'est difficile de répondre est-ce que je suis plus heureux ou moins heureux. Je ne peux plus fermer les yeux sur ça. En revanche, la question c'est est-ce que une fois que j'ai conscience, comment je fais pour être heureux quand même? Et est-ce que je regrette le bonheur du coup en partie factice que j'avais et que j'ai l'impression que certains des gens que je connais peuvent avoir parce que dans ce qu'on pourrait appeler une forme de déni écologique ou autre. Donc non, je n'en vis pas le bonheur des gens qui me semblent pas avoir ouvert les yeux sur certains sujets. Et oui, j'ai le sentiment de réussir aujourd'hui à m'entourer d'une manière où je ressens plein de joie au quotidien. Et il y a peut-être un autre élément, c'est que ces prises de conscience amènent aussi à chérir beaucoup plus, je trouve, l'impermanence du présent, etc. Il y a 2 ans, mon jeune neveu, le plus jeune de mes neveux, avait 3 ans, il a eu une leucémie. On peut dire que il s'en est sorti, hein. Mais ça a réorganisé l'ordre des priorités dans la famille, le sens des moments qu'on vit ensemble. Ça change pas tout, mais ça fait gagner en profondeur.
Le rapport à la vulnérabilité, ça c'est pour ce qui me concerne, je pense, c'est la conscience de la finitude de notre vie et en fait le fait de le sentir au fond de nos tripes qui, à titre personnel, fait qu'à un moment... Je n'ai plus pu voir comme avant, comme tu emploies dans ce sens-là. C'est vrai que quand on a, une fois qu'on sait, c'est difficile de refermer les yeux là-dessus. Et tu parlais de la campagne américaine de Bernie Sanders avec énormément d'innovations démocratiques pour aller chercher les citoyennes et les citoyens, que tu as notamment participé à venir apporter en France sur un certain nombre de projets. Je continuerai avec une dernière question qui est personnelle sur ta trajectoire. Depuis le 8 novembre dernier, on a un président américain qui a été élu, je crois que c'était le 8, qui nous porte un coup de massue absolument terrible parce qu'on a l'impression qu'à des échelles complètement qui nous dépassent, ça va complètement à l'encontre de la prise de conscience de ce monde injuste et en pleine destruction. C'est pourtant des États-Unis dont tu as rapporté aussi beaucoup d'espoir de cette campagne. Quel est le regard que tu portes pour ne pas perdre espoir quand on voit ce qui se passe là-bas?
La notion d'espoir est une notion qu'il faut manier avec beaucoup de prudence parce que souvent, parce qu'on a de l'espoir, on ne fait pas grand-chose parce qu'on a surtout l'espoir que d'autres changent et que la vie aille dans le bon sens. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps qui s'appelle... je le prononce mal quand je le fais en anglais, du coup je vais le faire en français, Moral Ambition de Roger Bregman, et qui en gros interroge qu'est-ce qu'on fait de notre temps pour agir au service du collectif ou pas. Et en gros, sa première partie, c'est qu'il interpelle les gens sur le fait que s'ils ont un bullshit job et qu'ils ont le luxe d'avoir un bullshit job, il serait peut-être temps qu'ils en changent. Et ensuite, et c'est là où c'est intéressant, c'est que il interroge, une fois qu'on a décidé d'agir pour le bien commun, comment on arbitre entre toutes les possibilités qu'on a d'agir. Et il prend notamment l'exemple de certains résistants dans les années 40, du coup, aux Pays-Bas, qui se sont mis à agir pour protéger des personnes juives des rafles, et sur le fait que ces gens-là se sont très bien organisés et notamment ont osé tout simplement poser la question à leurs voisins, est-ce que tu peux héberger une personne juive ou pas? 96% des gens à qui on pose la question le font. Et pourtant, une minorité des gens ont résisté. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est parce qu'on s'organise et qu'on se parle entre nous qu'on est apte à réagir face à la puissance fasciste, totalitaire. Et un autre élément qui fait écho à ça, c'est que à la Criée à Marseille, il y a 6 mois, s'est passée une représentation d'une pièce de théâtre qui s'appelle Katharina ou de la beauté de tuer des fascistes, qui interroge justement le fait qu'on soit correctement ou pas outillé pour faire face au fascisme. Et la conclusion, c'est non. Et notamment parce qu'à la fin, du coup, on se voit imposer par un des acteurs un discours fasciste et toute une partie de la salle ne réagit pas, considérant qu'on est encore dans le théâtre. Et une autre partie de la salle considère qu'on est dans un exercice de simulation d'alerte incendie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un discours fasciste qui nous est asséné, on n'est plus dans le théâtre, et pourtant, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte sur scène, on le bloque? Est-ce qu'on va couper le micro de la régie? Ceci, cela. Donc, pour moi, petite digression pour arriver à la conclusion de ce qui se passe aux États-Unis est dramatique, c'est terrifiant. Moi, je le vois parce que j'ai des amis qui me le partagent par Instagram, et souvent, ça m'empêche de dormir. Ne cédons pas au fatalisme, il faut qu'on s'organise, qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les discours fascistes, lutter contre la force fasciste, et surtout, qu'est-ce qu'on propose comme imaginaire alternatif? J'imagine qu'on y viendra en fin d'émission, mais il y a tellement de choses ultra kiffantes à proposer pour donner envie aux gens qui aujourd'hui laissent aller leur voix à l'extrême droite pour voter pour des idées plus fédératrices et épanouissantes, que je pense surtout on a un problème, on manque de créativité.
Moi, je ne sais pas si je suis d'accord avec toi sur la question de l'espoir, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement ce dans quoi, pour ne pas sombrer dans le désespoir, à un moment, ça m'a ramené à des questions de foi. Donc peut-être qu'on n'en parlera pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais de se rappeler quel est le sens de notre existence, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et donc, quand on remonte aux questions fondamentales, ça nous ramène à ces questions qui sont... quel est le sens que nous donnons à la vie et est-ce qu'on a la foi dans quelque chose ou pas, sur lequel chacun et chacune a la possibilité d'avoir son avis là-dessus. Mais là-dessus, je pense... Enfin, là, je me positionne sur cette question. Si jamais je n'avais pas l'espoir, je ne sais pas comment je m'inscrirais là-dedans. Mais c'est intéressant de voir que nos trajectoires écologiques, chacun, chacune, sont inscrites dans leur singularité. Et jusque-là, tu nous as parlé avec ta casquette de Clément. Et ce que je te propose maintenant, c'est de passer du moi vers le nous. Et donc d'avoir la casquette de cofondateur d'un projet qui s'appelle Trajectoire écologique, qui est un projet qui vise finalement à pouvoir poser des études sur ce genre de cheminement qui sont différents selon les trajectoires de chacune et de chacun. Est-ce que tu peux tout simplement d'abord nous présenter ce que c'est que cette trajectoire écologique?
Ben, peut-être que je peux revenir aux sources de l'intuition de ce projet. Donc, comme j'expliquais dans mon parcours, j'ai... très vite, comme plein de gens ici, le sentiment que c'est le système qui font changer, mais en même temps, c'est quand même les humains qui contribuent à ce système, qui peuvent le faire infléchir, et même s'il y a des structures de ce système qu'il faut infléchir, ben, qui peut les faire infléchir à part nous, de manière organisée? Du coup, il faut qu'on comprenne comment on s'organise, et qui peut peut-être préfigurer à plus petite échelle ce changement de système pour le rendre désirable, envisageable et du coup plus facilement atteignable collectivement. Du coup, l'autre élément aussi qui est important, c'est que j'ai l'impression que chacun croit très très bien savoir pourquoi il a changé, comment il a changé, et du coup avoir envie de faire changer les autres de cette manière-là, et notamment son entourage. Et ce qui m'a frappé, par exemple, pour revenir à la campagne de Sanders, qui est du coup le moment où j'ai pris conscience sur la question animal. Enfin, je dis j'ai pris conscience, c'est faux, je savais depuis des années grâce aux vidéos de L214, mais j'ai changé de pratique. Et le 15 mars, je ris au nez de la personne végane qui va finalement me faire shifter quelques mois après, et je l'ai marqué dans mon carnet. Je lui dis, j'ai fait une bonne blague sur le foie gras. Et en fait, bah, 15 jours après, elle me faisait shifter. Deux mois après, je rentrais en France, et il n'y a plus de foie gras à la maison depuis, et c'est pas grave. Et ce qui est marrant, c'est que je lui avais dit pourtant, non mais moi, jamais je changerai, je suis beaucoup trop français. Et donc, avant de changer, on est incapable de l'envisager. Après avoir changé, ça nous semble une évidence, est un hiatus qui me semble problématique. Et du coup, l'idée, c'était d'amener un maximum de personnes qui ont changé, quelle que soit la manière dont elles ont changé et quelle que soit la dimension dans laquelle elles ont changé, et surtout... en élargissant de simplement les pratiques de consommation. C'est pour ça que j'ai tiqué dans l'intro, parce que le seul exemple que tu as pris, c'est un exemple de consommation. L'exemple que je prends sur la viande, c'est un exemple de consommation. Alors qu'en fait, ben, y a plein de sujets sur le travail, sur l'habitat, sur le rapport au temps, sur plein de choses, sur le rapport à l'argent, où en fait, on peut shifter pour des raisons écologiques et ça ne se voit pas dans la consommation du quotidien, voire c'est beaucoup plus structurel ou important. Donc, l'idée, c'est de se dire, un peu comme... je prends une métaphore. On est dans une montagne. on sait tous, enfin il y a plein de gens qui se sont lancés dans la randonnée. On sait qu'il faut que tout le monde se lance dans la randonnée pour traverser la chaîne de montagne. Et pourtant, ben, ceux qui se sont lancés sans carte, sans équipement, sans préparation physique, et puis sans avoir prévenu leur entourage. Du coup, en fait, on ne sait pas ce qui marche. Donc l'idée, c'est d'y aller en quatre étapes. Vraiment, comment, qui et pourquoi. Première chose, on va lancer un grand appel dans la montagne. On dit à tout le monde, venez, on se met autour de la table et quelle que soit votre trajectoire écologique, quelles que soient les étapes par lesquelles vous soyez passé, vous retracez votre chemin. Et comme ça, ça va peut-être faire émerger des sentiers. Des sentiers pour certains profils, etc. Mais déjà, juste les sentiers. Donc, à partir de là, nous, notre première étape, c'est de trouver 1500 personnes pour répondre et retracer leur trajectoire écologique. Là, en l'occurrence, on s'intéresse aux 10 dernières années. Mais peut-être qu'à terme, il y aura un questionnaire complémentaire sur toute la vie. Ça pose d'autres questions méthodologiques, on y reviendra. Donc, est-ce que vraiment il y a des gens qui ont shifté ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont mis, pour le faire de manière explicite, parce que shifter, bifurquer, c'est pas clair, se mettre en décalage de la norme de leur groupe social d'appartenance sur au moins un sujet, pour raison écologique. Et une fois qu'on aura vérifié que vraiment il y a un phénomène, dans ces cas-là, on le qualifiera par le comment, en voyant quelles sont les étapes des parcours des gens, dans leur chronologie, dans leur amplitude, etc. Est-ce que c'est plus ou moins ample? Est-ce que... Parce que typiquement, il y a ce mythe de la grande bascule. Mais en fait, si ça se trouve, c'est plein de micro-changements et qui apparaissent de manière visible qu'au bout de plusieurs années. Et du coup, il faut le rendre visible, ça. Donc vraiment, comment, qui, c'est quoi les profils de départ, à qui correspond tel ou tel sentier. Et notamment, si on garde la métaphore de la randonnée, ce serait chouette de se dire, bon ben, on aura du coup peut-être un guide de rando qui permet de faciliter le fait de se mettre le pied à l'étrier pour... un couple de jeunes retraités, pour une coloc de trentenaires, pour une entreprise PME qui voudrait se lancer dans la rando tous ensemble. Vous gardez la métaphore. Et enfin, pourquoi? Et ce qui est marrant, c'est que du coup, la question du pourquoi, de qu'est-ce qui nous fait shifter, est-ce que c'est tel ou tel support pédagogique, est-ce que c'est telle ou telle relation, en fait, elle est très difficile à évaluer et du coup, elle vient en dernier parce que si ça se trouve, elle n'est même pas nécessaire. Une fois qu'on aura le vraiment comment et qui, peut-être qu'on pourra créer massifier ces changements même sans avoir le pourquoi.
Je comprends tout à fait l'intérêt on va dire en termes d'études fondamentales que de se poser la question de savoir qui sont les personnes qui à un moment ont décidé de partir en éclaireur ou en éclaireuse sans forcément avoir une boussole, une carte et un équipement adapté pour pouvoir traverser cette montagne, surtout quand il s'agit de beaucoup de personnes qui continuent à grimper et à un moment de dire en fait on redescend dans la vallée. Donc ça je le comprends d'un point de vue fondamental. Simplement je connais tes engagements aussi pour la société qui sont divers et variés, donc j'imagine qu'il y a quand même une volonté derrière que ça puisse avoir une incidence à la fois soit peut-être pour accompagner les personnes, soit pour pouvoir le présenter en termes de plaidoyer ou le porter dans le discours public. Est-ce qu'il y a une intention de transformation dans cette étude-là?
Ben, c'est quelque chose qui traverse notre sujet, mais on veille avec l'équipe et notamment avec les chercheuses. On pourra peut-être passer un temps pour expliquer qui sont les chercheuses qui encadrent cette étude, à vraiment s'en tenir pour le moment à nos questions fondamentales. On propose à l'ensemble de l'écosystème écologique de prendre un temps d'introspection pour se poser des questions. Et ensuite, émergera ce qui doit émerger. Et c'est pas à moi ou à nous de le décider. Nous, moi je suis convaincu que ce moment d'introspection, il peut créer une sérendipité. Et c'est marrant parce qu'en fait, on cherche à documenter la sérendipité des parcours des gens et on a un projet qui va peut-être faire émerger différentes suites, mais déjà vérifier que le phénomène est véritable, le documenter par un protocole inédit qui permet d'aller poser beaucoup de questions à beaucoup de gens sur beaucoup de temps et du coup d'avoir des résultats qui seront, j'espère, nécessairement riche à l'écosystème.
Tu nous as parlé du protocole, j'aimerais te poser la question là-dessus, et puis justement tu faisais mention aux chercheuses, en fait, qui fait cette étude, et comment est-ce que ces personnes s'y prennent?
Donc aujourd'hui, Trajectoire écologique, c'est une dizaine de bénévoles qui animent des sessions, gèrent la communication, organisent l'ensemble de la structure, et on a deux chercheuses partenaires, Mélusine Bunfaller et Mathilde Mus, qui sont diplômées en thèse, qui ont fait leur thèse à l'ENS et qui pour l'une est prof à Sciences Po aujourd'hui et pour l'autre chargée d'études d'impact à la région Nouvelle-Aquitaine sur les politiques publiques. Et on a pensé à un protocole, donc elles sont, c'est important de le dire, en sciences du comportement. Donc c'est à la croisée de la sociologie et de la psychologie. Et on a un protocole où on propose aux participants de venir participer à des visios pendant lesquels ils remplissent un questionnaire. C'est 3 fois 1h30. Donc vous calez ça là où vous calez d'habitude vos séries Netflix ou autres dans votre semaine. Et à la fin, vous avez retracé votre décennie à travers du coup une variété de sujets que tu évoquais au début, qui sont la trajectoire professionnelle, la trajectoire de consommation, la trajectoire résidentielle, etc. Et on vous fait retracer tout ça à travers des questions qui sont posées comme si c'était un observateur neutre qui était sur votre épaule tout au long de votre décennie. Donc c'est pas qu'est-ce que vous avez ressenti ou autre, mais c'est vraiment voilà, c'est des faits. On s'en tient aux faits. Et pardon, j'ai perdu mon fil.
Le protocole.
Et pourquoi on fait ça en session? C'est parce que il y a un vrai défi à avoir les gens sur un temps conséquent, et parce que les vies sont très riches et foisonnantes, ben si on vous propose pas de caler des temps précis pour le faire, en fait vous aurez toujours mieux à faire et c'est légitime. Donc on propose aux gens des temps en synchrone. L'autre élément qui est fondamental, c'est que du coup vous arrivez, vous êtes accueilli par un animateur ou une animatrice qui vous donne le code d'accès pour la session que vous devez faire, et cette personne-là est là toute l'heure et demie pour répondre aux questions que vous auriez. Et c'est fondamental parce que en fait ce questionnaire, pour y répondre bien, il faut être sûr que vous ayez bien compris les questions, et parfois même malgré tout l'effort de formulation explicite qui a été fait par les chercheuses, ben, il y a des questions qui émergent. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de blocage et que du coup la donnée collectée soit de qualité, ben, il y a une personne qui a accès à une FAQ et qui répond en direct à vous quand vous lui posez la moindre des questions.
T'emploies la question de la donnée, j'allais t'amener là-dessus. Et vous voulez interroger 1500 personnes pendant 3 séances d'1h30 chacune sur des questions liées à des enjeux de consommation, des enjeux professionnels, des enjeux d'utilisation du temps. C'est beaucoup de données. Moi, je me suis prêté à l'exercice. Qu'est-ce que vous en faites de cette donnée à l'heure où la question de la protection de la donnée est fondamentale?
C'est une très bonne question. Ça a été un enjeu fondamental qui explique pourquoi le projet a pris du temps à se lancer et a pris de l'argent à se lancer. On en profite pour remercier les gens qui ont financé le projet. Il n'est pas nécessaire de le financer pour participer, c'est vraiment ouvert très largement, mais heureusement que quelques centaines de personnes ont fait des dons au début pour financer ce site, puisqu'aujourd'hui on a un site très sécurisé qui stocke ces données en France, qui a été développé par une coopérative française d'informaticiens et de développeurs web qui s'appelle Telescope. Et sur cette plateforme, en fait, nous, il y a 3 données. Hein. Il y a votre mail, un identifiant unique et vos données. Et les personnes qui ont accès à votre mail et à l'identifiant unique sont d'un côté, et les personnes qui ont accès à l'identifiant unique et vos données sont d'un autre. Donc, il y a personne qui peut regrouper les deux. Et c'est vraiment pour ça, c'est très important d'avoir une équipe recherche et une équipe mobilisation. Moi, je suis dans l'équipe mobilisation, j'ai pas accès à la moindre des données répondues. Quand les chercheuses feront les synthèses, on aura accès aux données agrégées, mais on n'a pas accès aux données individuelles. Du coup, pour ce qui est des données individuelles anonymisées, ou plus exactement pseudonymisées suivant cet identifiant unique, les chercheuses, elles, sont tenues par un cadre éthique extrêmement robuste, qui est aussi qui engage Sciences Po, qui engage la région Nouvelle-Aquitaine aussi, hein, donc c'est vraiment, c'est pas n'importe quoi. Et par ailleurs, c'est vraiment pas l'intention d'aller checker qui est qui, c'est plutôt comme on ne sait pas ce qu'on cherche, puisqu'on cherche dans plein de domaines, plein de cheminements, on a été obligé de poser un questionnaire exhaustif, mais c'est pas du tout l'ambition du projet de retracer un profil unique, c'est de trouver des patterns. Et du coup, si à terme ces données seront partagées avec d'autres chercheurs, ce sera soit de manière non exhaustive, soit donc parcellaire sur telle thématique, soit avec un contrat aussi robuste que ce qu'on a avec les chercheuses. Et en revanche, l'outil de Collate, lui, il a vocation à rester ouvert pour qu'un maximum de personnes puissent témoigner de leur parcours et qu'on puisse continuer à nourrir cet cheminement et cette introspection.
Merci pour cette réponse. Je pense que sur la question de la donnée, on pourrait faire une émission entière sur la question. Et je vais t'en poser une dernière avant la pause, sachant qu'on a déjà un poil de retard. Quand est-ce qu'on aura les premiers résultats, de savoir ce qui ressort de tout ça? Parce que moi, je suis quand même très curieux d'avoir la méta-analyse du temps consacré à cette étude.
Bah, ça dépend de vous. Là, aujourd'hui, on a 415 personnes qui ont répondu depuis 3 mois. On cherche à accélérer la collecte pour avoir un maximum de répondants. On est sur un travail, du coup, de léger assouplissement du protocole tout en restant extrêmement rigoureux avec, en gros, des sessions qui sont un tout petit peu plus flexibles suivant l'horaire que vous voulez. Mais normalement, on cherche à avoir 1500 personnes, on va dire, dans le semestre.
Très bien.
Et à partir de là, du coup, il y aura un travail de publication d'articles de recherche dans une revue à comité de lecture. Ça va prendre des années et c'est le travail de Mélusine et de Mathilde dédié. Et après, il y a un travail de vulgarisation à partir des éléments que Mathilde et Mélusine vont produire qui, lui, sera transmis au grand public dans les meilleurs délais.
Et donc, pour s'inscrire, il faut aller sur trajectoireécologique.fr.
C'est vrai qu'on l'a pas dit trajectoire écologique au pluriel puisque chacun a sa propre trajectoire. .fr.
On le redira à la fin de l'émission.
Participer.
Mais là, ce que je te propose, Clément, c'est après une première partie d'émission déjà très dense, avec beaucoup de choses, j'imagine, à ingurgiter à la fois en termes de trajectoire et d'informations données. Je serais curieux de savoir ce que tu as décidé de nous faire écouter pour souffler un peu lors de cette émission.
C'est un morceau de la bande originale de The Greatest Showman qui s'appelle From Now On, qui est du coup une chanson de Hugh Jackman. C'est un film que j'ai vu la semaine dernière et que je trouve assez enthousiasmant, même si plein d'anachronismes.
Merci beaucoup Clément. Après avoir beaucoup parlé de la question de la trajectoire écologique dans le cœur et dans la tête, on peut aussi le dire un peu dans le corps. On se retrouve juste après ce moment de respiration.
From now on, these eyes will not be blinded by the light. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight. Tonight, let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on, I drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name. But those were someone else's dreams, the pitfalls of the man I became. For years and years, I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here,
Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles et nous avons toujours le plaisir de recevoir Clément Perrot, cofondateur du projet de trajectoire écologique avec un S parce que nous avons des multitudes de trajectoires. Du moins nous, on va passer du nous au tout. Comment est-ce que ces trajectoires participent à transformer la société dans laquelle nous sommes? Et donc Clément, pendant ce moment un peu d'interlude, tu voulais apporter un petit appendice supplémentaire sur le fait que ces trajectoires forment une symphonie plus collective, c'est ça?
Ouais, en fait, l'idée, c'est que l'intuition fondamentale qu'il y a derrière ce projet, c'est qu'il faut sortir de deux illusions. L'illusion du colibri qui fait son action à sa petite échelle comme un individu qui serait seul maître de son destin, et l'autre, de l'approche moyennisante. De toute façon, c'est le système qu'il faut changer. Les gestes individuels, ça ne sert à rien. Sur ça, par exemple, je trouve que l'étude que Carbone 4 avait faite faire sa part est très intéressante. Malheureusement, elle est très souvent utilisée à contre-emploi pour expliquer à quel point les gestes individuels, c'est largement insuffisant. Mais à ce stade, en fait, tout était insuffisant. Et par ailleurs, les gestes individuels, c'est pas que la consommation, et c'est pour ça qu'on élargit le spectre. Donc la question, c'est comment on s'organise, comment se passent les entrelacements de choix, de cheminement, d'action pour, à un moment, faire système, faire viralité. Alors peut-être pas à l'échelle de toute la société, mais au sein d'une partie de la société, faire basculer des choses qui vont en faire basculer d'autres. Voilà, c'est un peu ça qu'on cherche, c'est ce chaînon manquant des sciences sociales entre l'individu et le système, où on se dit, il y a peut-être quelque chose à aller chercher par une méthodologie plus profonde.
Chaînon manquant, et une des manières de pouvoir faire émerger ce chaînon manquant, c'est de pouvoir se projeter dans des futurs souhaitables. Lorsque tout à l'heure tu nous partageais ton regard sur l'espoir, tu nous parlais de la question des imaginaires et de la volonté de pouvoir ressentir quand même un appel d'air dans lequel on a envie de pouvoir respirer. Et donc ce que je te propose, Clément, c'est qu'on se projette un petit peu. Et pour ça va être une carte blanche que je vais te confier. Peut-être même que je peux t'inviter à fermer les yeux pour le visualiser encore davantage. Nous sommes dans 10 ans, on est en 2035 et on a réussi. Et donc j'aimerais d'abord que tu ressentes ce que c'est que d'avoir réussi, que tu te concentres sur ce que tu vis. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on vit tout simplement. Et donc que tu puisses nous donner des exemples au quotidien justement sur ces questions d'échelons manquants. Qu'est-ce que tu vas vivre de manière très personnelle, qu'est-ce qu'on vit de manière très systémique, et puis qu'est-ce qu'on vit collectivement. Et puis une fois que tu nous auras fait un peu ce petit portrait général, je t'inviterai à avoir un petit focus sur quelques thématiques qu'on a décidé de travailler ensemble. Mais d'abord j'aimerais que tu puisses nous plonger dans cet imaginaire qu'on souhaite possible le plus rapidement.
Alors, de la même manière que je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas ce que ça veut dire on a réussi ou tout est foutu, ce qui est souvent assez marrant parce que c'est des réactions qu'on entend en face. Non mais je crois que du coup c'est foutu. Quoi c'est? Ça veut dire quoi foutu? De la même manière, je ne sais pas trop ce que veut dire y arriver. Moi, ce que j'aime bien utiliser comme image, c'est encore une image de montagne, c'est globalement jusqu'à maintenant on est sur un téléski, on est tiré vers le haut, on sent qu'on va se prendre un arrêt parce que le téléski il a une fin, et il faut que d'ici le moment de bascule, ben, on apprenne à faire du ski dans la poudreuse, et globalement qu'on soit un peu plus flexible sur nos appuis, et que ben, de temps à autre on va chuter, mais c'est pas grave parce qu'on n'ira pas à pleine vitesse comme on va là actuellement sur le téléski. Donc pour moi, on aura réussi si la société dans son ensemble a réussi à se transformer pour qu'on gagne en agilité. Et là, au passage, hein, je réponds vraiment du coup totalement avec ma casquette de Clément Perrot, le militant, et plus du tout le co-porteur de trajectoire écologique. Donc, comment on peut vivre de manière heureuse de faire du ski dans la poudreuse, pour terminer sur cette métaphore? Pour moi, il faut qu'on gagne en flexibilité et du coup qu'on réinterroge notre rapport au temps et notre rapport aux outils. Notre rapport au temps dans la manière dont on l'alloue à l'échelle de la journée, à l'échelle de l'année, à l'échelle de la vie. Je suis absolument convaincu qu'une société écologisée, c'est une société où on a le temps de prendre des vraies respirations. Il y a un formidable bouquin qui s'appelle Paresse pour tous, qui prend comme cadre Marseille, où on est aujourd'hui pour cette interview, et qui imagine la campagne présidentielle d'un candidat qui revendiquerait la semaine de 15 heures travaillées. Je pense que c'est une piste intéressante. Je pense qu'une autre piste intéressante, c'est la retraite pour tous. C'est-à-dire, en fait, tous les 5 ans, tu as le droit à une année sabbatique, et toute ta vie, tant que tu es en bonne santé, tu as le droit de faire ça pour prendre des respirations. L'autre élément qui est fondamental dans le rapport au temps, c'est aussi dans le rapport à la vie et à la mort, on va subir des chocs écologiques qui vont créer des morts subites. Je pense qu'on est la première génération qui va majoritairement pas mourir de vieillesse et peut-être même pas mourir de maladies longues comme le cancer. C'est triste par rapport au schéma actuel, mais ça peut être juste. Mais c'est demande une métamorphose profonde. Est-ce que c'est en 10 ans qu'on fait ça? Je ne sais pas. Mais s'intéresser sur comment on se réconcilie avec la mort et du coup comment on se réconcilie avec la vie. J'aime bien ce dessin de Snoopy où Snoopy est à côté de son maître et le maître dit « Ah, mais on ne vit qu'une fois. » Non, non, on meurt qu'une fois, on vit tous les autres jours. Donc, une fois qu'on a senti cette impermanence de la vie et ce besoin de goûter le quotidien, ben, du coup, il y a une réconciliation avec le reste du vivant qui, j'espère, s'opère. Et le troisième élément, c'est sur la compétence et notamment sur les compétences d'adaptation. Sur ça, il y a une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Alexandre Florentin qui explique comment on pourrait adapter les villes pour pouvoir faire face aux canicules à 50 degrés. Et Alexandre imagine le fait qu'on pourrait avoir des nouveaux métiers comme... on avait à un moment les allumeurs de réverbères et on aurait les hisseurs de voile qui sont ceux qui viendraient protéger les rues les matins de canicule pour qu'il y ait une réverbération et que du coup les rues puissent rester fraîches même en l'absence de végétation le temps qu'elles poussent, parce que c'est un autre sujet. La vie, le vivant va malheureusement plus lentement que l'adaptation aux nouvelles conditions écologiques. Donc voilà, rapport au temps, rapport à la vie, rapport à la mort, et rapport aux compétences pour qu'on devienne tous vraiment acteurs de nos territoires et pas consommateurs de nos vies.
Ce qui est sûr, c'est que ça pose des questions absolument fondamentales que de passer du téléski au moment où on décide de skier dans la poudreuse avec peut-être une avalanche derrière soi. Tu faisais mention à Paresse pour tous. Paresse pour tous, le héros principal se présente aux élections présidentielles et il a un QG au couvent Levaque qui est à littéralement 150 mètres d'ici, où il y a la sieste obligatoire à partir de 15h dans des hamacs qui sont accrochés entre les abricotiers. Il me semble que c'est des abricotiers, mais je ne sais pas, à vérifier, peut-être que c'est des pommiers du couvent. À quoi ça ressemble? Parce que là, c'est des questions très fondamentales qui sont absolument nécessaires. Mais finalement, dans ce qu'il y a de palpable par rapport à nos sens, comment ça va se matérialiser ?
Il y a quelques éléments moi qui me plaisent bien dans les imaginaires qu'on peut avoir sur les imaginaires révolutionnaires. C'est par exemple l'imaginaire du banquet. Le banquet est un endroit post-révolution française qui est documenté historiquement comme le banquet populaire, hein, pas le banquet aristocratique, mais comme un grand moment de socialisation, et il y en avait beaucoup plus. Il y avait de la fête dans la rue, l'espace public était réellement investi par autre chose que la voiture et les motos pétaradantes pour ce qui est de Marseille. Je pense qu'il y a une réallocation du coup du temps social avec beaucoup plus de repas qui sont fait de manière collective et conviviale. Il y a aussi un travail beaucoup plus lié entre la ville et le rural pour que, en fait, parce qu'on aura démécanisé et déchimicisé notre agriculture, et ben on aura besoin de beaucoup plus de bras. Donc on peut imaginer que on aura tous peut-être, je sais pas, un cinquième de notre emploi du temps qui est dédié à aller participer au travail des champs. Et c'est pas la grande révolution maoïste, hein. Ça peut être tout à fait convivial et sympathique. Donc il y a ce rapport au temps, il y a ce rapport au lien, il y a ce rapport à la fête. Je crois fondamentalement que un monde où on a réconcilié les humains entre eux est beaucoup plus festif. Et peut-être un autre point qui fait écho au début de notre interview, c'est le rapport à la norme. De plus en plus, je m'interroge si c'est... et je dis je m'interroge, en fait, les lectures que j'ai m'amènent à m'interroger, hein, sur le problème de tout simplement chercher une norme et faire qu'une majorité même relative, mais parfois minoritaire, impose quelque chose comme la référence à tout le monde. Et on le voit sur les normes de genre, sur les normes sociales diverses et variées. Il y a un moment, il faut accepter qu'on ait une pluralité d'individus et que si on veut que chacun puisse s'exprimer dans sa pleine et entière singularité, ce qui ne veut pas dire autonomie totale par rapport aux autres, mais singularité et du coup, de manière joyeuse, ben, il va falloir qu'on éradique pas mal ces questions de normes. Et c'est à ça peut-être que fait écho The Greatest Showman de manière en l'occurrence anachronique, mais du coup quand même stimulante intellectuellement, dont est tirée la musique qu'on a écoutée à l'instant.
Merci pour cette question du rapport à la norme. On arrive déjà sur la fin de l'émission, alors je vais peut-être poser une dernière question. C'est quoi le prochain petit pas ? Et donc je vais pouvoir la décomposer. Je te propose de formuler des intentions. Un prochain petit pas peut-être pour toi, un prochain petit pas pour les collectifs dans lesquels tu t'investis et un prochain petit pas pour la société pour reprendre ces questions d'échelle. Ça peut être des tout petites intentions et finalement de repartir en disant bah tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à cheminer. Tu as pris l'allégorie de la montagne tout le long, c'est un pas, un pas, un pas, un pas, un pas, et puis à la fin, c'est quand on regarde derrière soi qu'on se rend compte de tous les kilomètres parcourus.
C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais que le prochain petit pas, c'est de, puisque tout ce cheminement amène à réinterroger des certitudes, à les chambouler, parfois à les détruire totalement, de systématiquement, au lieu de se dire c'était impossible, je ne changerai pas, se dire je ne suis pas encore prêt à changer, je ne suis pas encore prêt à l'accepter, et presque on va dire poser des questions plutôt que de poser des jugements face à une situation qui est inconfortable. Ça c'est à titre personnel. Dans le collectif, dans les collectifs auxquels j'appartiens, je pense que il y a un enjeu à se poser. Pour les collectifs politiques, il y a un enjeu à se poser, les questions de stratégie, de est-ce qu'on est vraiment outillé. Je crains que trop souvent dans l'activisme, pour répondre à une angoisse qu'on a, on se met à agir pour agir, mais qu'en fait on n'agisse pas, on s'agite. Je cherche vraiment à distinguer l'agitation de l'action, et par action je veux dire des choses qui impactent le réel, avec un avant et un après. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, si on se sent à ce point démuni face à la situation du monde, c'est parce qu'on n'a pas encore saisi comment c'était efficace d'agir, et c'est pour ça justement qu'on se pose ces questions chez Trajectoire Écologique, de venez tous et toutes témoigner pour nous dire comment vous agissez, qu'est-ce que ça vous fait, et qu'on essaye d'en tirer un bilan collectif de ces 10 ans depuis la COP21, en gros, où beaucoup d'entre nous se sont mis à agir plus ou moins intensément. Et pour la société, il y a un prochain petit pas qui est fondamental, c'est que si on continue d'être régi par des élections, il va falloir qu'on change la manière dont on vote, parce que le mode de scrutin tel qu'il fonctionne nous amène à prendre des mauvaises décisions, puisqu'il est à plein de biais. Je vous invite à découvrir ce que le vote à jugement majoritaire propose comme alternative. C'est une alternative qui a été développée par des penseurs, des chercheurs du CNRS qui sont mathématiciens et qui, s'appuyant sur des modèles mathématiques, ont inventé un nouveau mode de scrutin qui permet de s'exprimer au plus juste de l'opinion publique pour vraiment prendre des décisions qui satisfont la majorité et non pas qui sont toujours le choix du moindre mal.
Merci beaucoup Clément. Vaste émission où on a brassé énormément de questions sur les enjeux de trajectoire écologique. Merci pour cette conclusion. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent au moment où on arrive sur ces dernières minutes, sachez que si vous voulez apporter votre petite graine à la forêt pour préférer plutôt que une pierre à l'édifice, puisqu'il s'agit de revoir notre rapport à la civilisation jusque-là, eh bien vous pouvez vous retrouver sur trajectoireécologique.fr avec des S à trajectoire et écologique. Merci beaucoup.
Merci.
Et merci à Sidi qui a été en régie, sans qui cette émission ne serait pas possible pour l'enregistrement. On vous dit à très bientôt pour l'émission de La Forêt des Possibles. Bonne soirée.